Chapitre 2. La croissance, illusion et réalité. Un processus de convergence au niveau mondial et de rattrapage des pays développés par les pays émergents semble aujourd'hui bien engagé, même si les inégalités demeurent néanmoins extrêmement fortes entre pays riches et pays pauvres. Par ailleurs, rien n'indique que le rattrapage passe principalement par les investissements des premiers dans les seconds. Au contraire, lorsque cela est possible, l'investissement des seconds chez eux-mêmes paraît plus prometteur eu égard aux expériences passées. Mais, au-delà de la question centrale de la convergence, il nous faut maintenant insister sur le fait que ce qui se joue au XXIe siècle est le possible retour à un régime historique de croissance faible. Plus précisément, nous allons voir que la croissance, en dehors de périodes exceptionnelles ou de phénomènes de rattrapage, a en réalité toujours été relativement faible, et que tout indique qu'elle sera sans doute plus faible encore à l'avenir, au moins pour ce qui concerne sa composante démographique. Pour bien comprendre cette question et la façon dont elle s'articule avec le processus de convergence et avec la dynamique des inégalités, il est important de décomposer la croissance de la production en deux termes. La croissance de la population, d'une part, et la croissance de la production par habitant, d'autre part. Autrement dit, la croissance comprend toujours une composante purement démographique et une composante proprement économique, qui seule permet l'amélioration des conditions de vie. Cette décomposition est trop souvent oubliée dans le débat public, où l'on semble parfois faire l'hypothèse que la population a totalement cessé de croître, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, loin de là, même si tout indique que l'on s'y oriente lentement. Par exemple, en 2013-2014, le taux de croissance de l'économie mondiale sera sans doute supérieur à 3% grâce aux progressions très rapides observées dans les pays émergents. Mais la croissance de la population mondiale est encore actuellement de près de 1% par an, si bien que le taux de croissance de la production mondiale par habitant ou du revenu mondial par habitant sera en réalité d'à peine plus de 2%. La croissance sur très longue période. Avant d'en venir aux tendances actuelles, remontons dans le temps et essayons de nous familiariser avec les étapes et les ordres de grandeur de la croissance mondiale depuis la révolution industrielle. Lorsqu'on examine les taux de croissance sur de très longues périodes, plusieurs faits majeurs se dégagent. On constate en premier lieu que l'envolée de la croissance depuis le XVIIIe siècle est un phénomène mettant en jeu des taux de croissance annuels relativement modérés, et en second lieu, qu'il s'agit d'un phénomène dont les composantes démographiques et économiques ont approximativement la même ampleur. D'après les meilleures estimations disponibles, le taux de croissance du PIB mondial a été en moyenne de 1,6% par an entre 1700 et 2012, dont 0,8% par an au titre de la croissance de la population et 0,8% par an au titre de la croissance de la production par habitant. De tels niveaux peuvent sembler faibles eu égard aux débats actuels, où l'on considère souvent comme insignifiants les taux de croissance inférieurs à 1% par an et où l'on s'imagine parfois qu'une croissance digne de ce nom se doit d'être d'au moins 3% ou 4% par an, voire davantage, comme cela a été le cas en Europe lors des Trente Glorieuses ou en Chine aujourd'hui. Mais, lorsqu'il se répète sur une très longue période, un rythme de croissance de l'ordre de près de 1% par an, pour la population comme pour la production par habitant, tel que celui observé depuis 1700, est en réalité extrêmement rapide et sans commune mesure avec les croissances quasi nulles observées au cours des siècles précédant la révolution industrielle. De fait, d'après les calculs de Madison, les taux de croissance démographique et économique étaient inférieurs à 0,1% par an entre l'an 0 et 1700, plus exactement 0,06% par an pour la population et 0,02% pour la production par habitant. La précision de telles estimations est évidemment illusoire. Les connaissances dont nous disposons sur l'évolution de la population mondiale entre 0 et 1700 sont fort limitées et celles portant sur l'évolution de la production par habitant sont quasi nulles. Pourtant, Quelles que soient les incertitudes sur le chiffre exact, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance, il ne fait aucun doute que les rythmes de croissance étaient extrêmement faibles de l'Antiquité à la Révolution industrielle, et en tout état de cause inférieurs à 0,1%, 0,2% par an. Pour une raison simple, des rythmes supérieurs impliqueraient une population microscopique et peu plausible au début de notre ère, ou bien des niveaux de vie très nettement inférieurs au seuil de subsistance communément admis. Pour la même raison, la croissance des siècles à venir est sans doute appelée à retrouver des niveaux très bas, au moins pour ce qui concerne la composante démographique. La loi de la croissance cumulée. Pour bien comprendre ce raisonnement, il n'est pas inutile de faire un bref détour par ce que l'on peut appeler la loi de la croissance cumulée, c'est-à-dire le fait qu'une croissance annuelle faible cumulée sur une très longue période conduit à une progression considérable. Concrètement, la population mondiale a progressé d'à peine 0,8% par an en moyenne entre 1700 et 2012. Mais, cumulée sur 3 siècles, cela a tout de même permis de multiplier la population mondiale par plus de 10. Autrement dit, la planète comptait environ 600 millions d'habitants autour de 1700 et plus de 7 milliards en 2012, voire graphique 2.1. Si ce rythme devait se poursuivre dans les 3 siècles à venir, alors la population mondiale dépasserait les 70 milliards vers 2300. Afin que chacun puisse se familiariser avec les effets explosifs de la loi de la croissance cumulée, nous indiquons dans le tableau 2.2 la correspondance entre les taux de croissance mesurés pour une année, ce qui est le mode de présentation habituel, et les progressions obtenues pour des périodes plus longues. Par exemple, un taux de croissance de 1% par an correspond à une progression de 35% au bout de 30 ans, une multiplication par près de 3 au bout de 100 ans, par 20 au bout de 300 ans, et par plus de 20 000 au bout de 1000 ans. La conclusion simple qui ressort de ce tableau est que des taux de croissance supérieurs à 1%, 1,5% par an ne sont pas soutenables éternellement, sauf à envisager des progressions vertigineuses. On voit là à quel point différentes temporalités peuvent conduire à des perceptions contradictoires du processus de croissance. À l'horizon d'un an, une croissance de 1% semble très faible, presque imperceptible. Et de fait, les personnes concernées peuvent ne pas s'en rendre compte à l'œil nu et avoir l'impression d'une complète stagnation, d'une reproduction du passé quasiment à l'identique d'une année sur l'autre. La croissance apparaît alors comme une notion relativement abstraite, une pure construction mathématique et statistique. Mais à l'horizon d'une génération, c'est-à-dire environ 30 ans, qui constitue à nos yeux l'échelle de temps plus significative pour évaluer les changements à l'œuvre dans une société donnée, cette même croissance correspond tout de même à une progression de plus d'un tiers, ce qui représente une transformation très substantielle. C'est moins spectaculaire qu'une croissance de 2,5% par an, qui conduit à un doublement à chaque génération, mais cela est suffisant pour renouveler profondément et régulièrement une société et pour la transformer radicalement à très long terme. La loi de la croissance cumulée est identique dans son principe à la loi dite des rendements cumulés, selon laquelle un taux de rendement annuel de quelques pourcents, cumulé sur plusieurs décennies, conduit mécaniquement à une progression très forte du capital initial, à condition toutefois que le rendement soit constamment réinvesti, ou tout du moins que la part qui est consommée par le détenteur du capital ne soit pas trop forte, par comparaison notamment au taux de croissance de la société considérée. La thèse centrale de ce livre est précisément qu'un écart en apparence limité entre le taux de rendement du capital et le taux de croissance peut produire à long terme des effets extrêmement puissants et déstabilisants sur la structure et la dynamique des inégalités dans une société donnée. Tout découle d'une certaine façon de la loi de la croissance et du rendement cumulé, et il est donc utile de se familiariser dès à présent avec ces notions. Les étapes de la croissance démographique. Reprenons l'examen de la croissance de la population mondiale. Si le rythme de croissance démographique observé entre 1700 et 2012, soit 0,8% par an en moyenne, avait eu lieu depuis l'Antiquité, Alors, la population mondiale aurait été multipliée par près de 100 000 entre l'an 0 et 1700. Compte tenu du fait que la population de 1700 est estimée à environ 600 millions d'habitants, il faudrait, pour être cohérent, supposer une population ridiculement faible à l'époque du Christ, moins de 10 000 habitants pour l'ensemble de la planète. Même un taux de 0,2% cumulé sur 1700 ans impliquerait une population mondiale de seulement 20 millions d'habitants au début de notre ère, alors que les informations disponibles suggèrent une population supérieure à 200 millions, dont près de 50 millions pour le seul empire romain. Quelles que soient les imperfections des sources historiques et des estimations de la population mondiale à ces deux dates, il ne fait donc aucun doute que la croissance démographique moyenne entre l'an 0 et 1700 était nettement inférieure à 0,2% par an et très certainement inférieure à 0,1%. Contrairement à une idée répandue, ce régime malthusien de très faible croissance ne correspondait pas à une situation de complète stagnation démographique. Le rythme de progression était certes extrêmement lent et la croissance cumulée sur plusieurs générations se retrouvait souvent annulée en quelques années à la suite d'une crise sanitaire et alimentaire. L'exemple emblématique est la grande peste de 1347 qui aurait décimé un tiers de la population européenne, annulant ainsi plusieurs siècles de lente croissance. Il reste que la population semble avoir augmenté d'un quart entre 0 et 1000, puis de moitié entre 1000 et 1500, et de nouveau de moitié entre 1500 et 1700, période au cours de laquelle la croissance de la population s'approche de 0,2% par an. L'accélération de la croissance démographique est, selon toute vraisemblance, un processus très graduel, à mesure que progressent les connaissances médicales et les conditions sanitaires d'existence, c'est-à-dire extrêmement lentement. C'est véritablement à partir de 1700 que la croissance démographique s'accélère fortement, avec des taux de croissance de l'ordre de 0,4% par an en moyenne au XVIIIe siècle, puis de 0,6% au XIXe siècle. L'Europe, qui avec son extension l'Amérique connaît la plus forte progression démographique entre 1700 et 1913, voit le processus s'inverser au XXe siècle. Le taux de croissance de la population européenne est divisé par deux, avec 0,4% par an entre 1913 et 2012, contre 0,8% entre 1820 et 1913. C'est le phénomène bien connu de la transition démographique. L'allongement continu de l'espérance de vie ne suffit plus à compenser la chute de la natalité, et le rythme de progression de la population retourne lentement vers des niveaux faibles. En Asie et en Afrique, cependant, la natalité demeure élevée beaucoup plus longtemps qu'en Europe, si bien que la croissance démographique connaît au XXe siècle des niveaux vertigineux, 1,5%, 2% par an, d'où des populations multipliées par plus de 5 en un siècle, voire davantage. L'Égypte comptait à peine plus de 10 millions d'habitants au début du XXe siècle. Elle en compte aujourd'hui plus de 80 millions. Le Nigeria ou le Pakistan dépassaient péniblement les 20 millions d'habitants. Leur population dépasse aujourd'hui les 160 millions. Il est intéressant de noter que les rythmes de croissance démographique atteints par l'Asie et l'Afrique au XXe siècle, soit 1,5-2% par an, sont approximativement les mêmes que ceux observés en Amérique au XIXe et XXe siècle, voire tableau 2.3. Les États-Unis sont ainsi passés de moins de 3 millions d'habitants dans les années 1780 à 100 millions dans les années 1910 et plus de 300 millions dans les années 2010, soit une multiplication par plus de 100 en à peine plus de deux siècles. La différence cruciale, évidemment, est que la croissance démographique du Nouveau Monde s'explique pour une large part par les migrations venues des autres continents, en particulier d'Europe, alors que les 1,5-2% de croissance démographique annuelle atteints par l'Asie et l'Afrique au XXe siècle sont entièrement imputables à l'accroissement naturel, l'excédent des naissances sur les décès. Conséquence de cet emballement démographique. Le taux de croissance de la population au niveau mondial atteint au XXe siècle le chiffre record de 1,4% par an, alors qu'il n'avait été que de 0,4-0,6% au XVIIIe et XIXe siècle. Voir tableau 2.3. Il est important de réaliser que nous sortons tout juste de ce processus d'accélération indéfinie du rythme de croissance démographique. Entre 1970 et 1990, la population mondiale progresse de plus de 1,8% par an, soit presque autant que le record historique absolu observé entre 1950 et 1970, 1,9%. Entre 1990 et 2012, le rythme est encore de 1,3% par an, ce qui est extrêmement rapide. D'après les prévisions officielles, la transition démographique au niveau mondial, c'est-à-dire la stabilisation de la population de la planète, devrait maintenant s'accélérer. Selon le scénario central des Nations Unies, le taux de croissance de la population pourrait passer au-dessous de 0,4% par an d'ici à 2030-2040 et s'établir aux environs de 0,1% à partir de 2070-2080. Si ces prévisions se réalisent, il s'agirait d'un retour au régime de très faible croissance démographique prévalente avant 1700. Le taux de croissance démographique de la planète aurait alors traversé une gigantesque courbe en cloche au cours de la période 1700-2100, avec un sommet spectaculaire proche de 2% par an entre 1950 et 1990, voir graphique 2.2. Encore faut-il préciser que la faible croissance démographique prévue pour la seconde moitié du siècle, 0,2% entre 2050 et 2100, est entièrement due au continent africain, avec une croissance de 1% par an. Sur les trois autres continents, la population devrait soit stagner, 0,0% en Amérique, soit diminuer, moins 0,1% en Europe et moins 0,2% en Asie. Une telle situation de croissance négative prolongée en temps de paix constituerait une expérience inconnue dans l'histoire. Voir tableau 2.3.